Bonjour, ici le pasteur Joël Spink. Je suis vraiment content aujourd'hui d'être là avec vous dans le Disciple Victorieux. On commence aujourd'hui le chapitre 6 concernant l'Église. Et comme vous savez, souvent, je termine les sessions en vous encourageant à être fidèle à votre Église locale. Et on va voir ensemble justement qu'est-ce que ça veut dire. On va prendre le temps vraiment à comprendre la philosophie biblique, la vision de Dieu pour l'Église. Premièrement, on va regarder ici une définition. Donc, nous croyons que l'Église est un organisme spirituel composé de toutes les personnes qui ont reçu la nouvelle naissance dans l'âge présent. Donc, c'est vraiment important pour nous de comprendre ça. Quand on parle de l'Église, nous ne parlons pas ici d'un bâtiment. Souvent, les gens pensent, bon, ils vont dire « j'ai vu une belle Église ». Mais en fait, on parle souvent d'un bâtiment. Qu'est-ce qu'on devrait dire? « J'ai vu le bâtiment où l'Église se rassemble ». OK? Donc, l'Église, ici, selon la parole de Dieu, l'Église, c'est toujours des êtres humains, des personnes qui ont été nées de nouveau, qui ont passé par le miracle de la nouvelle naissance, qui sont incorporés au corps de Christ. Et voilà, on va voir maintenant une définition du terme « église ». Ici, nous lisons le mot français « église » est traduit du mot grec « ecclesia » qui veut dire « ceux qui sont appelés à sortir de », c'est-à-dire appelés à sortir du monde. Dans Jean 15, 19, ici nous lisons le texte « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Donc ici nous comprenons que nous ne sommes plus dans le monde. Nous sommes dans le monde physiquement, mais nous ne sommes pas du monde. Ok? Si vous comprenez la différence, nous sommes sortis du monde, même si nous habitons sur cette terre entourée des gens du monde, nous ne faisons pas véritablement partie de ces gens-là parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et dans Éphésiens 5, versets 25 à 27, il est écrit « Marie, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache ni ride ni aucun une autre imperfection. » Et là, je vous lisais dans la Bible française courant. Une des choses importantes ici, bon, cette Église a été purifiée, elle n'est plus dans le monde. Ensuite, nous voyons ici que l'Église est une maison spirituelle. Une maison spirituelle. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 3 à 5, il est écrit « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc ici, nous sommes une maison spirituelle, selon 1 Pierre 2, 3 à 5. Nous sommes des pierres vivantes. Nous faisons partie de l'Église. Nous sommes vraiment des pierres, comme une brique, ok, mais vivantes, pour Jésus. Dans Matthieu 16, versets 16 à 18, Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Une des choses super importantes. Dans l'Église catholique, les gens vont prendre ce texte-là pour justifier la présence du pape, disant que Jésus a remis les clés de son Église à Pierre et que là, finalement, après le décès de Pierre, il y a eu un autre pape et Pierre serait le premier pape. Et puis là, aujourd'hui, le pape qui est là, bien, ce serait un des descendants qui aurait reçu, pas un descendant physique, mais dans le sens qui serait dans la lignée des papes. Et qu'est-ce qu'on comprend ici? Le premier Pierre, tu es Pierre. En fait, quand on va dans le grec, ça nous dit, Pierre, tu es un fragment d'une roche. Mais sur cette pierre, en parlant du rocher qui est Jésus-Christ, je bâtirai mon Église. Comprenez que l'Église de Jésus-Christ n'est pas bâtie sur un homme, Pierre, un pécheur, qui a été sauvé et purifié. Oui, 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 mais nous comprenons que l'Église de Jésus-Christ est fondée et bâtie sur Jésus lui-même. Donc, on doit faire la part des choses ici et discerner. Donc, toute cette explication catholique concernant le pape, c'est erroné et le pape n'a pas sa place selon la parole de Dieu. J'espère de ne pas trop vous choquer, mais si on veut être biblique, il faut dire les choses comme nous les lisons dans la parole de Dieu. Donc, l'Église. Nous avons vu jusqu'à présent, bon, la définition, ok, ceux qui sont appelés à sortir d'eux, et nous comprenons, nous sommes appelés à sortir du monde et former une maison spirituelle. Ensuite, nous comprenons également que l'Église est un corps spirituel composé de plusieurs membres. Dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14, dans Bible du Sommeur, il est écrit « Le corps humain forme un tout et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Nous, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Donc, encore une fois, nous voyons la réalité de l'Église ici. Et dans Romains 12, versets 4 à 5, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est pour ça qu'on peut dire, bien, faisons partie du corps de Christ et je suis membre de l'Église de Jésus-Christ. Mais être membre de Jésus-Christ ou du corps de Christ, ici ne se réfère pas à être membre d'une église locale dans le sens que j'ai ma petite carte qui dit je suis membre de cette église. Non, mon membership, si on veut, c'est un mot en anglais, mais le fait que je suis membre dans cette église, c'est parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ et j'ai été accepté par le Seigneur certainement lorsque j'ai placé ma foi en lui. J'ai été incorporé dans le corps de Christ et je fais partie du corps de Christ. Cependant, une fois que je fais partie de l'église universelle de Dieu, de tous ces âmes qui ont été sauvés, qui se sont donnés à Dieu, bien là, Dieu m'appelle à faire partie d'une bergerie. Dieu m'appelle à faire partie d'une église locale. Il y a des gens qui disent, bien moi, je fais partie de l'église avec un grand E, et puis voilà, moi, je fais ma vie à ma façon, et puis j'écoute des messages sur l'Internet, ou à la télévision, ou à la radio, et puis je m'organise tout seul. Mais en fait, ça, c'est vraiment une pensée indépendante et qui est contraire à la présentation de l'église selon la parole de Dieu. Si on veut marcher en obéissance à la parole de Dieu, on va se joindre à une église locale et on va faire partie de la vie de l'église. Donc, une autre chose qu'on veut comprendre concernant l'église, c'est une bergerie avec son grand berger, Jésus-Christ. Dans Jean 3, verset 11, il est écrit, Jésus dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et dans Jean 10, verset 27, Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Dans Hébreux 13, verset 20 à 21, « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. » Donc, le grand pasteur des brebis, c'est le Seigneur Jésus. « Vous rendez capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Donc, Jésus est lui-même le chef de l'Église. Dans Éphésiens 1, 22 à 23, il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tous. Donc, jusqu'à présent, bon, une Église, certainement, c'est une bergerie avec son grand berger, Jésus-Christ. Mais dans cette bergerie, nous retrouvons également une école avec une équipe d'enseignants. Donc, dans l'église locale, nous sommes censés de célébrer les cinq ministères. Et nous retrouvons ça dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 11 à 16. Donc, quand on fait partie d'une église locale, nous avons un berger qui est en fait sous la bergerie de Jésus, parce que Jésus est le grand berger, le grand pasteur. Mais comme dans mon cas, je suis un berger également, mais sous l'autorité de Jésus-Christ. Et là, je suis là pour être le berger des brebis que le Seigneur Jésus m'a confié. Alors, moi, ce que je fais, je suis pasteur et je dirige le troupeau de Dieu sous la direction de Jésus-Christ, certainement. Et là, je cherche également à être entouré par le modèle biblique de l'Église. Ici, on parle des cinq ministères que nous retrouvons dans la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 11 à 16. Ici, je vais lire. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints ou des chrétiens, si vous voulez, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je vais m'arrêter là. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints ou de l'Église en vue de l'œuvre du ministère. Nous sommes tous appelés à faire du ministère, à servir le Seigneur d'une façon ou d'une autre et d'être édifiés dans notre foi. Donc, les cinq ministères qui sont là pour l'éducation du corps de Christ. Et si nous regardons les apôtres, ici, quand on parle d'un apôtre, c'est quelqu'un envoyé de Dieu pour fonder des églises. Un prophète, c'est un porte-parole pour Dieu qui reçoit des messages de la part de Dieu, des messages surnaturels. Et puis ensuite, l'évangéliste, c'est celui qui partagent la foi, qui a un message sur le salut. Et puis, il y a vraiment un ministère également dans le surnaturel. On va voir des miracles dans son ministère, des guérisons. Ceci dit, l'apôtre aussi peut vivre des choses comme ça. Le prophète aussi peut voir des miracles. Mais spécialement l'évangéliste, lui, c'est un porteur de la bonne nouvelle, de l'évangile. Il est évangéliste parce que il évangélise, il annonce la bonne nouvelle. Les autres comme pasteur et docteur. Donc, ici, on parle, un pasteur, c'est un berger, quelqu'un qui s'occupe des brebis. Et docteur, ici, on parle d'un enseignant, quelqu'un qui va enseigner la parole de Dieu avec justesse, certainement. Et moi, je crois obligatoirement, le pasteur et docteur, l'enseignant, c'est un ministère, en fait, qui est vraiment uni. Là. Un pasteur doit être un enseignant, parce qu'un pasteur qui n'enseigne pas, comment est-ce qu'il peut vraiment prendre soin des brebis? Donc, le pasteur est là, oui, pour prendre soin des brebis, mais en même temps, il doit être un docteur ou, si on veut, un enseignant pour enseigner la voie du Seigneur pour les brebis. Donc, et tout ça, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je continue. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, ou mature, si vous préférez, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité ou dans l'amour. Donc, dans l'église locale, il devrait y avoir les cinq ministères ou au moins la vision d'avoir les cinq ministères. Présentement, dans notre assemblée, nous avons plusieurs pasteurs dans l'équipe pastorale. Nous retrouvons des gens qui ont un cœur d'évangéliste, aussi des ministères prophétiques, tout ça. Et puis, nous sommes dans ce cheminement de cette croissance-là où nous croyons que le Seigneur va rajouter certainement ou révéler des choses dans nos vies. Et notre cœur est de célébrer les cinq ministères. C'est très important parce que c'est le modèle biblique. Nous venons de le lire dans Éphésiens 4, 11 à 16. Si vous êtes dans une église et les gens disent, ou le leadership dit, bien nous ne croyons pas dans les cinq ministères, ils viennent de vous apprendre qu'ils ne croient pas dans le modèle biblique de l'église. Et ça ne donne pas grand-chose d'être là parce que s'ils ne croient pas toute la parole de Dieu, bien vous n'aurez pas le conseil de Dieu pour votre vie et vous ne grandirez pas d'une bonne façon et probablement vous allez avoir toutes sortes de difficultés spirituelles. On ne peut pas rejeter une portion de la parole de Dieu et par la suite s'imaginer que les choses vont bien aller dans l'église locale. Non, on veut avoir la vision de Jésus comme nous lisons dans la parole de Dieu. On adopte sa façon de voir les choses et là, on peut grandir dans les voies de Dieu et vivre vraiment la volonté de Dieu dans l'église. Alors voilà plusieurs choses qu'on a vues aujourd'hui concernant l'église. Bon, le terme de l'église, nous l'avons défini. Nous avons vu que c'est une maison spirituelle et c'est un corps spirituel composé de plusieurs membres. De plus, nous avons vu que c'est une bergerie avec son grand berger. Qui est le berger? C'est Jésus. Et en même temps, c'est une école avec une équipe d'enseignants. Et comme nous allons poursuivre dans notre étude sur l'église locale et sur l'église en général, nous allons voir plusieurs autres choses et nous allons être bénis. Mais d'ici là, je vais vous encourager, soyez fidèles à votre église locale. Certainement, là, vous venez d'apprendre des choses. Soyez fidèles au poste et continuez à prier le Seigneur. Continuez à lire votre Bible et continuez à grandir dans ses voies afin de vraiment découvrir la vie abondante à tous les niveaux. Ça, c'est le cœur de Dieu pour vous. C'est de vivre la vie abondante dans la joie, dans la paix, et vous allez la découvrir quand vous allez marcher fidèlement avec le Seigneur Jésus-Christ. D'ici la prochaine fois, soyez richement bénis.